assemblés en ton nom, Seigneur, pour t'offrir la louange de nos cœurs. Alléluia, alléluia, crions notre joie au Dieu vivant. Alléluia, alléluia, louons Dieu pour notre chant. Voici rassemblés en ton nom, Seigneur, notre louange pour ce soir est tirée du psaume 33. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un ami, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre esprit, notre espoir est en toi. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Nous chantons le psaume 8, les deux premières strophes du psaume 8, qui se trouve à la page 40. Bienvenue à ce temps de culte du samedi. Et nous plaçons devant Dieu, nous nous rappelons aussi, avant de nous placer, nous nous rappelons des exigences de l'amour que Dieu nous offre. Et nous le trouvons dans une histoire d'un ermite du désert qui avait l'habitude de dire « Tant qu'un homme ne se reconnaît pas pécheur, Dieu ne l'écoute pas. » Alors un frère lui a posé la question « Comment sait-on que l'on se reconnaît pécheur ? » Alors l'ancien a répondu, « Quand quelqu'un porte son propre péché, il ne voit pas ceux de son prochain. » Nous restons assis pour chanter la première strophe du 45-21, « Trouvez dans ma vie ta présence. » 45-21, première strophe. Thank you.
l'écho de ta voix.
Nous prions. Notre regard est perçant, Seigneur, pour repérer la moindre brindille qui se trouve dans l'œil, dans la parole, le comportement du frère. Notre langue est agile pour dénoncer la moindre erreur, le moindre faux pas chez ceux que nous considérons comme des concurrents. Notre esprit est vif pour considérer que si tout le monde était comme nous, notre monde se porterait mieux. À cause de notre regard de comparaison, de notre parole de condamnation, de notre esprit de jugement, l'Ancien dit que tu ne nous écoutes pas, que notre prière flotte dans le néant, qu'elle mouline dans le vide. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, dans le silence et l'absence. Nous nous humilions devant toi pour que tu guérisses notre regard. Apprends-nous à ne prêter attention qu'à ce qu'il y a de beau et de bon chez notre prochain. Nous nous humilions devant toi pour que tu guérisses notre parole, qu'aucune critique ne franchisse la porte de nos lèvres, mais que nous soyons prompts à encourager, à louer. Nous nous humilions devant toi pour que tu guérisses notre pensée, convertis notre raisonnement et notre intelligence pour comprendre ce qui est bon, agréable et parfait devant toi. Deux hommes vont au temple pour prier. L'un est pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, prie ainsi dans son cœur : « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes et ils trompent leur épouse. » Le collecteur d'impôts reste derrière. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappe la poitrine et dit : « Ô Dieu, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. » Jésus affirme, oui, je vous le dis, quand le collecteur d'impôts rentre chez lui, il est juste devant Dieu, mais pas le pharisien. Lorsque nous demeurons les yeux vissés sur les errances de notre prochain, nous sommes enfermés dans la comparaison, prisonniers du péché. Mais lorsque nous nous humilions devant Dieu, nous sommes affranchis du regard du prochain, libérés du péché, pardonnés pour un nouveau chemin. Dieu a entendu ta prière, il te pardonne, il te libère. Nous manifestons cette reconnaissance pour ce pardon en nous levant et en chantant le cantique 47-22, j'ai tout remis entre tes mains, 47-22, page 753.
Tes mains, que ce soit pardon toutes mes peines, ceux qui m'angoissent et qui m'enchaînent, et le souci du lendemain, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout. Tes mains, ressentiments, haines amères, les luttes et toutes les guerres, ce qui sépare les humains. J'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains. Que ce soit la mort ou la vie, la pauvreté ou la richesse. Ombre ou lumière du chemin, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. Que ce soit la vie ou la vie, la santé ou la maladie, le commencement ou la fin, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains.
Prenez place. Une lecture pour ce dimanche de carême, d'ailleurs le dernier dimanche de carême, puisque la semaine prochaine, sauf erreur de ma part, ce sont les rameaux. Une lecture qui se trouve dans l'évangile de Marc, que nous lira tout à l'heure Yvan Serge. Mais avant, nous prions. Fêter Pâques, c'est construire au fil de jours, au creuset des événements de vie et de mort, c'est construire la terre et renouveler les hommes et les femmes jusqu'à leur pleine grandeur, à la taille du Christ Jésus, mort et ressuscité. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que ta parole nous mette en marche sur le chemin vers Pâques. Amen.
Marc chapitre 8, nous lirons du verset 34 au premier verset du chapitre 9. Puis Jésus appela la foule avec ses disciples et dit à tous, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même et qu'il porte sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. » Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner pour racheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles face aux gens d'aujourd'hui, infidèle et rebelle à Dieu, alors le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jésus leur dit encore, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. »
Nous chantons la première strophe du 22-04. Parle-moi, c'est page 260.
Te dire
prenez place. Nous venons d'entendre quelques versets susceptibles de nous mettre mal à l'aise. Nous ne savons souvent pas comment prendre et comprendre ce genre de versets difficiles dont le sens, pour ne rien dire de l'application, nous échappe. Eh bien, nous allons tout de même essayer. Se renier soi-même et prendre sa croix. Comment comprendre cette phrase sans tomber dans une mortification et un dolorisme, chose complètement étrangère aux enseignements et à la vie du Christ? Lorsque je lis ces passages, ou ces parallèles dans les autres évangiles, je me fais souvent la remarque qu'il serait bien à même de conforter un lecteur non prévenu dans ses préjugés sur le christianisme comme religion tournée vers la mort, la souffrance, le mépris du corps. Néanmoins, je suis persuadé que rien de tout cela ne se trouve dans les quelques versets que nous venons d'entendre. Ni appel au martyr ou à l'autosacrifice, ni invitation au dolorisme ou à la macération. Je crois qu'au contraire, que loin d'être tourné vers la souffrance et la mort, vers l'anéantissement et de soi, ces paroles du Christ nous appellent à la vie et à la liberté. Pourquoi ? Parce que dans toutes les paroles et la vie de Jésus, parce que tout dans les paroles et la vie de Jésus nous appelle à ces deux fins. C'est le principe protestant qui veut que l'Écriture s'interprète par l'Écriture. Alors oui, je crois cela a priori, d'abord par conviction personnelle, et ensuite parce que dans ces paroles de Jésus, il y a un certain nombre d'indices qui permettent de disqualifier les interprétations mortifères. D'abord, surtout comme, si comme moi, vous êtes sensible aux incohérences narratives, nous avons un premier problème avec l'appel à prendre sa croix. Dans le récit, Jésus n'a pas encore été crucifié. Comment les disciples pourraient-ils comprendre le sens de cette injonction? Bien sûr, Jésus vient d'annoncer sa passion et sa mort, mais les disciples ont refusé d'entendre et il n'a été jusqu'ici jamais été question de crucifixion. Ce léger problème m'a rappelé une de mes émissions de radio préférées, hélas aujourd'hui disparue, qui s'appelait « Des papous dans la tête » sur France Culture le dimanche après-midi, je crois, dimanche après-midi. L'animatrice avait demandé aux écrivains invités s'ils étaient fâchés si quelqu'un leur spoilait ou leur divulgachait, comme on dit en bon français, la fin d'un roman. Et l'un d'eux, je ne sais plus lequel, avait répondu « Bah, on connaît bien la fin des évangiles, ça ne nous a jamais empêché de les lire. » Et il avait plus que raison. En effet, contrairement au roman policier, dont on vous gâche la lecture en vous dévoilant la fin, et encore, ça se discute, les évangiles nécessitent que le lecteur en connaisse la fin, et notamment la croix. Ce n'est qu'à partir de la croix qu'on comprend qui est Jésus. Souvenez-vous de l'officier romain confessant la mort du crucifié, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Donc ici, la parole de Jésus, telle que Marc la rapporte, s'adresse plus au lecteur, qui connaît la fin, nous, qu'aux disciples, qui ne la savent pas encore. Il y a une autre petite difficulté. Qu'entend le Christ lorsqu'il dit que parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance? Sans doute fait-il allusion à sa résurrection, dont certains de ses auditeurs seront témoins. Dans l'évangile de Marc, d'ailleurs, les récits de rencontres avec le ressuscité sont absents. C'est peut-être ici que parle que Jésus. C'est peut-être ici que le Jésus de Marc en parle. Ceux-là verront la vérité, c'est-à-dire l'identité véritable de Jésus. Cet homme brisé, torturé, est en fait Dieu lui-même. Et avoir fait route avec lui était vivre dans le règne de Dieu. Néanmoins, conviction ou pas, avec ou sans a priori, il y a dans ces paroles des formulations qui nous chagrinent, telles que celle-ci, qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Faut-il faire acte non seulement d'humilité, mais d'humiliation, Doit-on renoncer à soi-même, s'oublier et ne penser qu'aux autres? Ainsi, il faut se renier, soit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un indice pour trouver la bonne réponse se trouve peut-être dans le verbe grec employé aparneomai, qui veut dire renier ou apostasier. Le verbe que Jésus emploie lorsqu'il affirme que Pierre le reniera trois fois avant le chant du coq, c'est celui-là. Ce mot a une signification fortement religieuse. Il signifie rejeter un dieu. Quel dieu faut-il donc apostasier? Peut-être qu'il faut justement comprendre ici que c'est moi, en tant que dieu, qu'il faut rejeter. Le dieu que nous nous imaginons être. L'image toute puissante que nous avons, malgré toutes les apparences, gardée. Cesser de mettre toute notre confiance en nous-mêmes, cesser de croire que notre salut repose sur nos seules épaules, renoncer à nous croire forts, puissants, riches et beaux ou belles. Même en tant que disciples du Christ, nous pouvons nous voir, nous croire ou nous espérer triomphants, joyeux. Nous nous imaginons qu'un bon chrétien témoigne par la force qui est en lui de la puissance de Dieu. Regardez quel homme ou quelle femme formidable la foi a fait de moi. Avant, j'étais nul, mais Jésus a fait de moi la personne admirable que je suis. C'est généreux, c'est énergique, c'est beau, mais c'est culpabilisant. Culpabilisant pour celui qui n'y arrive pas, et j'en suis. Et culpabilisant pour celui qui écoute. C'est le non-évangile, la fausse bonne nouvelle. Nous confessons un Christ qui fait connaître Dieu, un Dieu qui se fait connaître dans le Christ Jésus. Et ce Christ est un Christ crucifié. La résurrection, porteuse d'espérance, ne change rien à ce fait. Dans les évangiles, et notamment celui de Marc, c'est crucifié que Jésus est confessé, Fils de Dieu. La croix est le symbole de l'humain brisé, disloqué, anéanti. Jésus n'est pas le Dieu qui triomphe dans la puissance des humains, qui est toujours une puissance de mort. Parce que la puissance humaine veut dominer, assujettir. La puissance de Dieu en Jésus-Christ est une puissance qui libère et qui, par conséquent, fait vivre. La puissance de Dieu est une non-puissance. Ce n'est pas une impuissance. Jésus aurait pu faire acte de puissance pour dominer. Il le pouvait et il ne l'a pas fait. Par simple choix, par pure liberté, par amour pour les humains. La non-puissance n'est pas une impuissance. Je me souviens d'un professeur, alors était-ce au collège ou au lycée, qui nous avait parlé de deux jeunes gens témoins d'un enlèvement d'enfants en pleine rue. Et quand on leur avait demandé pourquoi ils n'étaient pas intervenus, ils avaient rétorqué « Nous sommes non-violents ». Et mon professeur de commenter « Non, ils n'ont pas été non-violents, ils ont été lâches ». Doublement lâches de ne pas être intervenus et d'avoir essayé de camoufler cette faiblesse en vertu. Peut-être que ces jeunes gens avaient fini par être eux-mêmes convaincus de leur propre force morale. Disciples du Christ, nous sommes invités à nous voir à la lumière de ce Jésus, à nous mettre à la suite du Dieu incarné qui a lui-même accepté d'en passer par la non-puissance. De même, nous sommes invités à être libres par rapport aux puissances du monde, ce qui nécessite du courage et non de la passivité, la renonciation à la puissance et non l'impuissance. La liberté, ce n'est pas d'être pauvre, par exemple. Les pauvres ne sont pas plus libres, ni forcément moins d'ailleurs, que les riches. Être libre, c'est renoncer à la richesse, à l'emprise de la richesse sur nous, non pas par dépit, par défaitisme ou résignation, c'est renoncer par choix à la suite du Christ. Si on retient cette interprétation, la suite prend sens. L'opposition, sauver sa vie, la perdre, laisse entendre que celui qui refuse de renoncer à sa vision de lui comme un Dieu ne pourra trouver un sens à sa vie et il aura vécu pour rien. Sa puissance, ses richesses, sa renommée périront et pourriront avec lui. Gagner le monde et perdre la vie, c'est se réfugier dans les fausses sécurités terrestres, richesse, puissance, reconnaissance, pour tout perdre le moment venu. En nous reconnaissant comme crucifiés, c'est-à-dire privés de toute force et de toute consolation, nous établissons un compagnonnage avec le Christ. Cette proximité fera défaut à ceux dont la dignité ne leur a pas permis cet aveu, qui auront honte du crucifié. C'est sûr qu'annoncer un Dieu crucifié qui fait le choix de la non-puissance et de la liberté plutôt que de celui de l'indépendance et de l'autonomie, ce n'est pas très glamour. Mais je suis convaincu que c'est d'une actualité brûlante, une époque où tout le monde veut être reconnu, admiré, tout le monde veut posséder, consommer, où des hommes et des femmes se posent en sauveurs, sinon du monde, du moins de la France, par la seule force de leur volonté et de leur énergie. Être disciple du Christ ne signifie pas non plus ne pas s'engager, ne pas agir, ne pas vouloir changer les choses, mais cela signifie que ce ne se fera pas sans, par une débauche de moyens, par une conformité au mode du moment. Ce ne se fera pas contre les autres. La non-puissance, c'est le refus de s'imposer aux autres. C'est choisir la liberté plutôt que le conformisme confortable ou le grégarisme rassurant. Prendre sa croix, c'est également se renier comme Dieu tout-puissant. Pas pour être Dieu à la place de Dieu, en faisant comme lui, mais pour se mettre à sa suite. Il y a en effet un petit adjectif possessif. Qu'il prenne sa croix, nous dit Jésus, sa croix. Et comme dit le proverbe, à chacun sa croix. Je n'ai pas à me charger de celle de Jésus. J'ai à prendre la mienne et à avancer avec elle à la suite de Jésus. Faire route avec le Christ, c'est cela même, être dans le règne de Dieu. Mon Dieu, plus près de toi, cantique 48-07, page 766. Nous chantons les strophes 1, 2 et 4. 766, 48-07. 1, 2, 4.
Plus près de toi, Seigneur.
Je vous invite à dire ensemble la confession de la foi. C'est le numéro 4 dans le petit livret à la fin de vos recueils. Il est la source de la vie, ça commence comme ça. Enfin, ça commence pas comme ça, mais pas. C'est bon, vous l'avez ? Je crois en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et pour que nous en célébrions la bonté et la beauté. Il est la source de la vie. Je crois en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus le serviteur, mort et ressuscité, pour le pardon et la liberté de tous les humains. Et il est le prix de notre vie. Je crois en Dieu qui, par son Esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Et je vous invite à chanter le 36-24, tous unis dans l'Esprit, page 522, et nous chantons les strophes 1, 3 et 4. 1, 3 et 4, page 522. L'apôtre dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui étant riche s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté vous soyez rendus riches. C'est par cet extrait du deuxième épître aux Corinthiens que je vous invite à participer au don et au moment de l'offrande. Thank you. Au Christ qui t'es donné toi-même pour nous, afin de nous racheter de tout mal et de faire de nous un peuple qui t'appartienne en propre, accueille avec bonté cette offrande comme l'humble témoignage de notre amour. Amen. Quelques annonces, peut-être quelques nouvelles.
Tu diras.
Voilà.
Bonsoir, merci d'être là ce soir. Merci à Vincent d'avoir présidé ce culte et à Yvon Serge qui nous a accueillis avec moi et à Mathieu qui est à l'orgue. Voilà, cette semaine, nous nous retrouvons, pour ceux qui veulent chanter, mardi à 19h15. Voilà, avec Marie-Yvonne. Et mercredi, nous prions à 18h. Et sinon, demain, il y a l'Assemblée Générale à 9h30, à partir de 9h30. Donc si vous êtes membre électeur et que vous n'êtes pas là demain, pensez à remplir une procuration avant de...
Un pouvoir.
Et puis, si vous souhaitez avoir le rapport d'activité ou le rapport financier, il est à disposition à l'accueil. Voilà. Est-ce qu'on en...
Oui, l'émargement est à 9h, hein, quand même.
Oui, l'émargement à partir de 9h.
Mmh. On va pouvoir commencer à l'heure. Oui, les nouvelles qui ne sont pas forcément très bonnes de Micheline Bierck. Alors, on a déjà eu une nouvelle très mauvaise au début, puis moins mauvaise, c'est un peu compliqué. Voilà, donc pensez à elle dans vos prières. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, toi le Dieu des vivants et des morts, nous te remettons notre vie et notre mort. Apprends-nous chaque jour à te donner notre vie et notre mort, elles sont à toi. Regarde et accueille la souffrance de ceux qui veulent mourir parce qu'ils en ont assez de la vie. Entends le cri de ceux qui ne peuvent pas mourir parce qu'ils n'ont pas trouvé la paix. Regarde et accueille la souffrance des mourants et de ceux qui sont à leur côté. Entends les cris de révolte et d'incompréhension de ceux qui perdent un être cher. Apprends-nous à entendre ces cris, à regarder cette souffrance avec ta compassion. Renouvelle notre espérance et notre confiance en toi seul, toi le Dieu des vivants et des morts. Et c'est avec cette confiance que nous osons te dire avec audace, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Je vous invite à vous lever pour l'envoi, la bénédiction et pour le cantique final que nous chanterons après. Le 62-81, que la grâce de Dieu, c'est page 1005. Vous qui êtes choisis, sanctifiés, aimés par Dieu, ayez donc des sentiments de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, vous pardonnant réciproquement comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que règne dans vos cœurs la paix du Christ à laquelle vous avez tous été appelés en un seul corps. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Cantique 62-81. Sa bénédiction.
Va en paix, dans la joie, dans l'amour.
Bon week-end à tous.